Il est 19h30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir le monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique en direct du Studio 13 à Washington, édition du 8 juillet 2014, en votre compagnie Nathalie Barge
et Chérubin Dorsil.
Alors au sommaire ce soir, en Somalie, assaut des Chebab contre le palais présidentiel à Mogadiscio.
République centrafricaine, nouveau bilan pour l'attaque d'hier sur un site de déplacés chrétiens à Bombari, plus de 20 morts et une vingtaine de blessés.
L'épidémie d'Ebola continue de faire des victimes en Afrique de l'Ouest. Le bilan est maintenant de 518 morts.
Israël poursuit ses raids contre Gaza. Au moins 12 Palestiniens ont été tués. Le Hamas accuse l'État hébreu de crimes de guerre.
Et dans notre segment spécial sur la Coupe du Monde, sans ses deux vedettes Thiago Silva et Neymar Junior, le Brésil affronte l'Allemagne ce soir pour une place en finale. C'est donc tout un pays qui retient son souffle.
Dans les rues, tout le monde est là à attendre. Tout le monde veut aller au Maracana et tout le monde espère une finale Brésil-Argentine. C'est la finale espérée depuis le début du tournoi.
Nicolas Pinault, notre envoyé spécial au Mondial que nous entendrons tout à l'heure, mais d'abord le journal.
Nous commençons en Somalie. Attaque des Chabab contre le palais présidentiel à Mogadiscio où de fortes explosions et des tirs ont été signalés. Les militants sont partiellement entré dans l'enceinte du palais, a dit un officiel, ajoutant que la plupart des assaillants ont été tués. Les autorités affirment que le président et le premier ministre sont en sécurité suite à cette attaque. Le président Hassan Sheikh Mohamed n'était pas au palais au moment de l'agression. Dans une série de messages sur Twitter, le bureau du président dit que l'attaque sur la villa somalia a été déjouée et que la zone est sécurisée grâce à l'armée somalienne et aux forces de l'Union africaine. La police somalienne a dit à la Voix de l'Amérique être en passe de dénombrer les corps pour déterminer les pertes. Un porte-parole d'Al-Shabaab a déclaré que le groupe contrôlait certaines partie du palais lors de l'attaque. Les islamistes armés avaient également attaqué le palais en février. 17 personnes avaient été tuées. Le représentant spécial de l'ONU pour la Somalie, Nicolas Kay, a dénoncé l'attaque de ce mardi.
En Centrafrique, au moins 20 personnes ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées hier dans l'attaque du site des déplacés de la cathédrale Saint-Joseph de Bambari. L'attaque a été menée par des Séléka. Le ministre français de la Défense, qui était attendu aujourd'hui à Bambari, a annulé sa visite. Le point avec Idriss Fall.
Les ex-Séléka ont attaqué les réfugiés chrétiens sur le site de déplacés de la cathédrale en représailles au meurtre d'un musulman par des anti-Balaka. Selon un premier bilan fourni par la MISCA, au moins 22 personnes ont été tuées et 22 autres grièvement blessées. Une vingtaine de maisons et 3 véhicules de la mission catholique ont été incendiés. Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, a quitté Bangui aujourd'hui après une tournée de 48 heures. Il devait se rendre à Bambari, mais la visite a été annulée en raison de la forte tension dans cette ville.
En Tanzanie, l'explosion d'une bombe tard hier soir dans un restaurant d'Arusha a fait au moins 8 blessés, dont un très grièvement, Jacques Aristide.
C'est le restaurant indien Vama, fréquenté notamment par des touristes et des membres de l'élite tanzanienne, qui a été la cible de cet attentat à la bombe. Il a été causé par un engin explosif improvisé, lancé à travers une fenêtre, d'après un porte-parole de la police dans le nord du pays, qui précise que tous les blessés sont des locaux. Deux Tanzaniens sont détenus pour interrogatoire après avoir été arrêtés à proximité du restaurant peu après l'explosion, ont affirmé les autorités policières qui, lundi soir, n'avaient pas encore identifié avec certitude les auteurs de l'attentat. Elles ont toutefois écarté toute implication du groupe islamiste somalien Al-Shabaab. C'est la troisième fois en un peu plus d'un an qu'Arusha, ville touristique en face du Kilimandjaro et du parc national de Serengeti, a été visée par des attentats.
Au Nigeria, l'explosion devant un dépôt de carburant à Lagos le 25 juin dernier n'était pas un accident. Les autorités nigérianes auraient cherché à camoufler un attentat à la bombe meurtrier à Lagos, selon une enquête de l'AFP. Des détails avec Jean-Roger Bion.
L'explosion a eu lieu sur un axe menant au plus grand port du Nigeria et à la zone où sont stockées les réserves de carburant de la capitale économique dans le quartier d'Apapa. À Lagos, les autorités avaient immédiatement démenti la thèse d'un attentat, annonçant un accident causé par une citerne de gaz qui aurait pris feu sans faire de victimes. Faux, rétorque Bob Seddon, un vétéran d'Afghanistan et d'Irak et spécialiste des engins explosifs improvisés, qui a écrit un email commentant les photos de l'AFP. Pour lui, il s'agit à coup sûr d'un accident provoqué par l'usage de puissants explosifs. Selon M. Seddon, 25 à 50 kilos d'explosifs artisanaux ont été utilisés à Apapa. Plusieurs hauts diplomates ont confirmé en privé que l'explosion avait été préméditée. Les autorités ont préféré démentir par peur des effets désastreux que pourrait entraîner l'annonce d'une attaque dans la capitale économique, jusqu'ici épargnée par la vague d'attentats dans le pays. Depuis le 25 juin, le gouvernement de l'État de Lagos a fait renforcer la sécurité autour des installations stratégiques de la ville et augmenter la capacité d'accueil en urgence des hôpitaux publics.
Le nouveau bilan des victimes de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest est de 518 morts. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 37 décès ont été signalés la semaine dernière en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Un Américain suspecté d'être porteur du virus Ebola au Ghana a été testé négatif, mais selon de nouvelles informations, il est décédé depuis pour des raisons indéterminées. L'OMS affirme que le nombre total de cas d'Ebola en Afrique de l'Ouest s'élève à 844, avec 16 nouveaux cas au Libéria et 34 en Sierra Leone.
Les juges français Marc Trévidic et Nathalie Pou ont terminé l'enquête sur l'attentat contre l'avion de l'ex-président rwandais Juvénal Habyarimana en 1994, ont annoncé les avocats de la défense, indique l'AFP. Le parquet a 3 mois pour prendre ses réquisitions. En 2006, l'ancien juge d'instruction Jean-Louis Bruguière avait signé des mandats d'arrêt contre des proches de l'actuel président rwandais Paul Kagame. La défense, qui fut très patiente, attend désormais que le non-lieu soit prononcé au plus vite, ont déclaré les avocats des mises en examen. Une commission d'enquête rwandaise a imputé la responsabilité de l'attentat à des extrémistes Hutus qui auraient voulu se débarrasser du président Habyarimana, jugé trop modéré.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au moins 12 Palestiniens ont été tués dans les raids israéliens sur la bande de Gaza. C'est en représailles à des tirs de roquettes depuis Gaza, contrôlés par le Hamas. Bagassi Koura.
Le mouvement islamiste Hamas a tiré lundi soir des dizaines de roquettes contre Israël. L'aviation israélienne a répondu par des dizaines de raids cette nuit sur la bande de Gaza. Le ministre israélien de la Défense, Moshe Yaalon, a laissé entendre que l'opération n'allait pas se terminer. En quelques jours, le président israélien Shimon Peres, connu pour sa modération, a dit que son pays n'a pas le choix face à ces tirs d'obus. Les médias israéliens ont même rapporté que le gouvernement a autorisé le rappel de 40 000 réservistes en prévision d'une éventuelle offensive terrestre. De son côté, le Hamas a dénoncé un crime de guerre horrible et selon son porte-parole Sami Abu Zuhri, désormais tous les Israéliens sont des cibles. Le président Barack Obama a exhorté les deux parties à la retenue dans ce qu'il qualifie de moment dangereux. Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, a appelé la communauté internationale à intervenir immédiatement pour arrêter la dangereuse escalade. Nabil Al-Arabi, secrétaire général de la Ligue arabe, demande la tenue d'une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations unies.
Le secrétaire d'État américain John Kerry est attendu à Kaboul, en Afghanistan, vendredi, dans le cadre d'un effort visant à résoudre la dispute électorale. Le candidat, qui était arrivé en tête au premier tour, Abdullah Abdullah, rejette les résultats préliminaires du second tour, donnant la victoire à son rival, Ashraf Ghani. Le président américain Barack Obama ainsi que M. Kerry ont averti M. Abdullah contre toute tentative de s'emparer du pouvoir par la force ou de former un gouvernement parallèle. En effet, devant des milliers de partisans à Kaboul, Abdullah avait juré de ne jamais accepter ce qu'il qualifie de gouvernement frauduleux.
En Ukraine, le président Petro Poroshenko a écarté la possibilité d'un cessez-le-feu tant que les séparatistes pro-russes de l'Est ne déposeront pas les armes. Dans une déclaration ce mardi, le ministre de la Défense, Valéry LT, se dit confiant du succès de Kiev dans son offensive. Cette crise a déjà fait plus de 400 morts en 3 mois.
Même affaibli, le typhon Neoguri, qui continue de traverser les îles d'Okinawa au Japon, a fait 1 mort et au moins 10 blessés. Les autorités ont demandé l'évacuation de près d'1 million d'habitants de l'archipel à cause de fortes pluies accompagnées de vents violents. Environ 70 000 personnes sont sans électricité à Okinawa, mais aucun dégât important n'a été signalé.
Le président Barack Obama a demandé au Congrès américain un fonds d'urgence de 3 700 000 $ pour faire face à un afflux d'immigrants illégaux venant de l'Amérique centrale. Des dizaines d'enfants du Guatemala, du Honduras et du Salvador ont récemment traversé la frontière mexicaine, tantôt seuls, tantôt accompagnés d'un parent. Selon la Maison-Blanche, 1 600 000 $ seront alloués à la protection frontalière, la détention et les poursuites judiciaires contre les trafiquants. Le département de la santé publique et de la population aura 1 800 000 pour prendre soin des migrants et 300 millions de dollars iront au département d'État. Parallèlement, M. Obama a demandé au Congrès la permission d'accélérer l'expulsion des mineurs entrés illégalement sur le territoire américain.
Et toujours aux États-Unis, à Seattle, dans l'ouest du pays, on peut maintenant acheter légalement et ouvertement de la marijuana. Les premières boutiques autorisées à vendre le cannabis sont ouvertes leurs portes aujourd'hui. Certains amateurs ont dû veiller pour être les premiers servis. La marijuana a été légalisée l'année dernière et pour la première journée de vente libre, il y a eu pénurie. Écoutons le docteur Patricia Yepasi-Zembrou.
Aujourd'hui, c'est la grande ouverture des magasins et des boîtes qui ont eu leur permis de vendre légalement le cannabis. Jusque-là, je crois que l'État a dû autoriser une vingtaine de boutiques, mais ce ne seraient pas toutes les boutiques qui vont ouvrir et vendre le cannabis parce qu'il semblerait qu'il y a une carence. Il y a un magasin qui va vraiment ouvrir aujourd'hui et depuis hier, il y a des gens qui ont veillé pour être les premiers acheter le cannabis légalement pour l'utilisation récréationnelle.
Patricia Yepasi-Zembrou est médecin à Seattle aux États-Unis. Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington. Avec vous, c'est Nathalie Barger, Chérubin Dorcil.
Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, a quitté Bangui aujourd'hui après une tournée de 48 heures. Il devait se rendre à Bambari, mais la visite a été annulée en raison de la tension entre ex-Séléka et anti-Balaka. Idriss Fall a fait le point avec l'un de nos correspondants, Désiré Ngaïbona, qui est à Bambari.
Exactement, je me trouve dans la ville de Bambari, à 400 km de Bangui. Le ministre de la Défense français, Jean-Yves Le Drian, devait venir ici par rapport à la crise qui s'est passée entre Anti-Balaka et les Séléka. Mais jusqu'à maintenant, il n'est pas encore arrivé. Tout le monde se mobilise à la gendarmerie où se trouve la base française pour l'accueillir. Malheureusement, jusqu'alors, on n'a pas encore vu son avion atterrir ici à Bambari.
Il y a eu des affrontements hier. Qu'est-ce qui s'est passé?
Hier, il y avait eu affrontement entre la Séléka et les forces Sangari. Parce que les anti-Balaka, ils ont tué un musulman et les Séléka veulent venir récupérer le corps à la base des anti-Balaka. Et les Français ont dit non. Ils ont dit, laissez, c'est à nous de vous amener le corps. Donc ils ont refusé et ils ont commencé à tirer sur les militaires français.
Parce qu'on nous dit aussi que la cathédrale où il y a les déplacés était encerclée par les ex-Séléka.
Si. La cathédrale Saint-Joseph de Bambari est encerclée par la Séléka. Et ils ont lancé des grenades sur la population civile, c'est-à-dire les déplacés chrétiens qui se trouvent dans cette église. Et il y avait eu 22 morts et plusieurs blessés. Et on ne connaît pas encore le sort de certains blessés qui se trouvent présentement à l'hôpital. Ils sont pris en charge par la Croix-Rouge et les forces Sangari.
Est-ce qu'on connaît un bilan quand il y a eu l'accrochage avec la force Sangari?
Il n'y a aucune victime du côté français par rapport à ce qui s'est passé hier. Mais sinon, avant-hier, il y a de cela deux jours, il y avait eu affrontement entre Anti-Balaka et les forces Sangari. Et certains Sangari ont été blessés.
Désiré Ngaïbona, un correspondant de La Voix de l'Amérique à Bambari, en Centrafrique.
Bonjour, c'est Nicolas Pinot. Retrouvez-moi tous les jours en direct du Brésil pour le journal de la Coupe du Monde. Les résultats, les coulisses et les à côté de cet événement planétaire. Matin et soir, La Voix de l'Amérique à l'heure brésilienne pendant un mois. Sans oublier notre site internet www.lavoixdelamerique.com et notre page Facebook. La Coupe du Monde, évidemment à suivre sur La Voix de l'Amérique.
Toujours en Afrique, au Mali, première session de la cour d'assises de Bamako. Les travaux ont débuté lundi. Parmi les 150 cas devant les juges, notamment des affaires de coups et blessures volontaires, espionnage, faux et usage de faux, assassinat, trafic de drogue, etc. Kassim Traoré a assisté à l'ouverture de cette session d'une durée de 5 semaines.
Les 150 affaires inscrites au rôle concernent 289 accusés. Ces dossiers seront jugés pendant cette session de la cour d'assises de Bamako. Daniel Amogouen Tessogué, procureur près la cour d'appel de Bamako.
Il s'agit de justice, de dignité et de respect de l'homme. Cette exigence, monsieur le président, monsieur le membre de la cour, vous en assumerez les grandeurs et les contraintes. Fiers d'être les humbles serviteurs, fidèles, loyaux et dignes de la justice, d'atteinte au bien public, d'infanticide, de viol, de pédophilie hélas, d'assassinat, de coups mortels, de trafic international de stupéfiants, de vols qualifiés, j'en passe. Puis quelques infractions qui sont assez rares quand même sous nos yeux, comme l'espionnage, la destruction d'édifices et la violation de tombeaux.
Ces assises doivent permettre une meilleure distribution de la justice et elle doit se faire partout. C'est ce que pense Daniel Amogouen Tessogué.
Partout, il faut une existence de justice. Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie. Il ne faut pas être au-dessus des hommes. Il faut être avec eux. C'est bien cela notre nation, avec sa devise, un peuple, un but, une foi.
Le président de la cour d'appel de Bamako ne doute pas de la bonne distribution de la justice au Mali. Moussa Sara Diallo.
La cour saura jouer sa partition en appliquant correctement les textes dans le respect du principe du contradictoire, d'instruction à charge et à décharge, d'assistance de l'accusé d'un avocat et d'égale écoute de toutes les parties au procès, y compris le ministère public. Et le coupable écoupera de la peine adaptée à son cas, l'innocence sera acquitté.
La cour d'assises est composée de 3 juges professionnels et 4 assesseurs. Les assesseurs sont les représentants du peuple et ont les mêmes voix délibératives que les juges professionnels lors de la détermination de la culpabilité de l'application de la peine. Pendant cette assise, il y aura 2 sessions par jour, sauf les mercredis où la salle est réservée pour les audiences de la chambre civile. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Des nouvelles de la justice dans le monde. La Cour suprême en Inde a jugé que les tribunaux basés sur la charia n'ont aucune autorité juridique et que les fatwas touchant aux droits fondamentaux sont illégales. Ces tribunaux islamiques ne sont toutefois pas interdits d'exercer, rapporte Anjana Pashriha, correspondante de La Voix de l'Amérique à New Delhi, dans un reportage présenté par Michel Joseph.
La décision de la Cour suprême indienne a été prise après une requête voulant que les tribunaux islamiques soient dissous. Le requérant citait le cas d'une femme dont le mariage a été annulé par un tribunal islamique qui lui a ordonné de vivre avec son beau-père qui l'aurait violée. La plus haute cour indienne a statué que les fatwas émises par des religieux musulmans ne pouvaient pas limiter les droits fondamentaux de l'individu. Le jugement dit qu'aucune religion, y compris l'islam, n'encourage les gens à punir des innocents par des décrets non sanctionnés par la loi. Et il souligne que les musulmans n'ont aucune obligation de se conformer à ces directives. En revanche, la haute cour a rejeté la demande du requérant de dissoudre ces tribunaux basés sur la charia, jugeant que si une personne veut encore les saisir, c'est selon sa volonté. Les membres de All India Muslim Personal Law Board ont défendu les tribunaux islamiques, disant que la Cour suprême avait simplement schématisé la procédure de délivrance des fatwas. Zafar Yab Gilani est membre du conseil d'administration.
We had never said that the qazi.
Nous n'avons jamais dit que le qadi ou une ordonnance d'un qadi est obligatoire pour toute partie et qu'il ne peut pas saisir un tribunal de droit.
La constitution indienne permet aux musulmans de suivre la charia, notamment sur les questions matrimoniales et de droit de succession. Kamal Farouki, un leader religieux musulman, dit que les tribunaux islamiques n'ont jamais essayé de bloquer l'accès à d'autres tribunaux.
Si deux musulmans sont prêts à aller en arbitrage et à demander un jugement pour la réconciliation ou pour donner leur opinion, il n'y a rien de mal à cela. Légalement, il est obligatoire. Mais si les deux parties ne s'entendent pas, en fin de compte, c'est la loi du pays qui prévaudra.
L'arrêt de la Cour est susceptible de relancer un débat de plusieurs décennies sur ce que l'on appelle le Code civil uniforme en Inde. Le Bharatiya Janata Party au pouvoir a longtemps soutenu une loi commune sur les questions de mariage, de propriété et de divorce pour que les femmes et hommes aient des mêmes droits. Mais d'influents groupes musulmans considèrent qu'une telle loi est contraire à leur religion.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, la Coupe du Monde au Brésil à 3 jours de la grande finale. Et cette question, pourquoi l'Afrique n'a-t-elle pas pu encore une fois aller au-delà des quarts? Vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum ou à fr@voanews.com. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Et le thème qui fait danser tout le monde au studio 13 de La Voix de l'Amérique et qui fait sourire Nathalie, c'est le journal de la Coupe du Monde qui sera présenté ce soir par Félix Yepassis Zembro. Alors Félix, on est prêt pour ce duel entre le Brésil et l'Allemagne. Bonsoir.
Bonsoir, Chérubin. Et oui, le Brésil retient tout son souffle à quelques minutes du duel qui va l'opposer à la Nationalmannschaft, l'équipe allemande. À 20h, temps universel, à Belo Horizonte, on aura droit à une finale avant la lettre avec un Brésil 5 fois champion du monde qui sera aux prises avec une Allemagne 3 fois maîtresse de la planète football. Une confrontation qui rappelle une autre, la finale du mondial Corée-Japon 2002, remportée par la Seleção 2-0, 2 buts de l'attaquant vedette de l'époque, Ronaldo. Mais ce soir, le Brésil devra jouer sans son capitaine Thiago Silva, suspendu. Mais surtout sans Neymar Junior, son attaquant vedette. Bagassi Koura a demandé à Nicolas Pino, notre envoyé spécial à Belo Horizonte, si le Brésil se sentait quand même prêt pour cette rencontre.
Pas vraiment, Bagassi, car évidemment les deux joueurs clés sont absents, notamment Neymar qui souffre d'une fracture d'une vertèbre et Thiago Silva, le capitaine suspendu. La grande question aujourd'hui, est-ce que les attaquants brésiliens qui restent, notamment Fred qui a été très 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 critiqué, est-ce que ces attaquants vont être au niveau pour justement pouvoir compenser l'absence du meilleur buteur de l'équipe, 4 buts jusqu'à présent pour Neymar. Et notamment Fred, hein, l'attaquant le plus vieux de la sélection qui est l'objet même de la part des Brésiliens de nombreuses critiques. Alors ici, tout le monde attend, d'autant que de l'autre côté, hein, chez les Allemands, il y a évidemment cette efficacité qui est là depuis 4 tournois maintenant en demi-finale. Et donc l'Allemagne qui reste évidemment à surveiller. L'autre facteur Bagassi, c'est évidemment le public, hein, le Brésil qui joue à domicile et le stade de Belo Horizonte qui sera évidemment 100% jaune et vert.
C'est donc tout un pays qui retient son souffle, hein?
Eh oui, Bagassi, dans les rues, tout le monde est là à attendre. Tout le monde veut aller au Maracana et tout le monde espère une finale Brésil-Argentine. C'est la finale espérée depuis le début du tournoi. Il reste un match à chaque équipe pour pouvoir réaliser le rêve des supporters brésiliens de se retrouver le 13 juillet au Maracana.
Nicolas Pino, notre envoyé spécial à Belo Horizonte au Brésil. Les demi-finales du Mondial 2014 opposent Européens et Sud-Américains, le Brésil à l'Allemagne dont on vient de parler et l'Argentine aux Pays-Bas. Ce dernier match a lieu demain dans son coup de sifflet du jour. Notre consultant Jules Valentin Gouet nous parle du duel Europe-Amérique du Sud, un duel qui date depuis 1930 lors de la première Coupe du Monde.
Bonjour. Le duel Amérique-Europe anime la Coupe du Monde depuis ses débuts en 1930. Avec son habituel chassé-croisé dans l'attribution du trophée, ses défis et son lot de propositions et d'animations de tactiques. La flamboyante équipe d'Uruguay, championne olympique en 1928, permettait à l'Amérique de gagner son premier match contre l'Europe dans une finale totalement américaine à Montevideo contre l'Argentine de Stabile, comme ce sera aussi le cas 20 ans plus tard dans l'enceinte de Maracana face à l'ogre brésilien. Là où l'Europe, elle, a accumulé 8 derbys sur son sol, probablement aidée par sa surreprésentation. Mais l'Amérique latine, qui lui tient la dragée haute, avec 9 victoires contre 10, peut égaliser au Brésil et préserver son invincibilité sur son continent, contrairement à l'Europe matée en 1958 par Pelé et les siens. C'est dire que les demi-finales qui opposent les deux continents à travers les sommets Brésil, Allemagne et Argentine, Pays-Bas, sentent le souffle et surtout ramènent au premier plan des questions que de nombreux passionnés se posent depuis quelque temps. S'acheminerait-on, comme le souhaite toute l'Amérique latine, vers un derby Brésil-Argentine? L'Europe peut-elle réaliser le hold-up et imposer un remake de la finale de 1974 à Maracana envers et contre tous? Ou encore Lionel Messi peut-il enfin s'ouvrir la voie pour une finale et au bout une victoire qui l'autoriserait à tutoyer des icônes intouchables comme Maradona et Pelé? Réponse à toutes ces questions mardi, mercredi et dimanche. À bientôt.
La demi-finale entre l'Argentine et les Pays-Bas aura une saveur particulière pour Máxima Zorreguieta, reine des Pays-Bas née en Argentine. Alors que certains médias argentins assurent que la demi-finale provoquera des tensions dans le couple royal néerlandais, d'autres n'hésitent pas à soutenir que la rencontre divise un royaume. Affaire à suivre, cher Robert.
Merci, Félix Yepassis Zembro.
Et voilà, on termine cette édition en musique avec Paulo Flores, Semba Sembinha. Paulo Flores pour encourager le Brésil en demi-finale contre l'Allemagne dans une minute à peu près, quelques minutes, et c'est la fin de notre émission. Le Monde aujourd'hui a été mis en onde par Yemi Adjemi. À la console technique, c'était Tian Wang. Laissez vos messages sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Avec vous, c'était Nathalie Barge en compagnie de Chérubin Dorsil. Très bonne soirée à tous.
Samba do morro, samba novo da baçula, o pé no salão, o pé no chão. E a gente dança pela noite fora.